Biotine, l'émission de vulgarisation scientifique de Graphite.
Bonjour à tous, bienvenue sur l'antenne de Graphite, tous les samedis entre 12h et 13h. Vous écoutez sur Graphite l'émission Biotine. Je m'appelle Jean-Noël, on parle de l'actualité scientifique. Pas mal de petites informations que nous allons développer pendant une heure. On écoutera aussi un peu de musique, bien sûr. Biotine tous les samedis, rediffusion le mardi matin à 10h sur graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet et sur la bande FM 94.9 pour ceux qui nous écoutent dans l'Aisne, l'Oise, la Somme. Bienvenue à vous, je suis très heureux de vous accompagner pendant cette petite heure. Nous sommes aujourd'hui le 9 mai et au niveau de l'éphéméride, en 1926, le 9 mai, l'explorateur américain Richard Byrd déclare avoir survolé le pôle Nord géographique en 1926. Oulala, bah ça fait 100 ans pile d'ailleurs. Tiens, voilà, on fête l'anniversaire de ce survol du pôle Nord géographique par Richard Byrd. Naissance de Gregory Bateson, le 9 mai 1904, anthropologue, psychologue, épistémologue américain, influencé par la cybernétique, la théorie des groupes et celle des types logiques. En fait, il s'est beaucoup intéressé à la communication humaine, la communication animale, mais aussi au fondement de la connaissance des phénomènes humains. Il a écrit un livre qui s'appelle « Vers une écologie de l'esprit » et Gregory Bateson propose un schéma hiérarchisé de l'apprentissage divisé en plusieurs niveaux. Il établit des limites de la conscience en la comparant à un iceberg dont seul le pic est visible mais dont la plus grande partie se cache sous la surface. Donc pour tous les anthropologues, psychologues, épistémologues, pour tous ceux qui s'intéressent à la communication humaine, à la communication animale, dans sa théorie, dans sa pratique, Gregory Bateson est un nom quand même assez important. Gregory Bateson est mort en 1980, mais il est donc né un 9 mai 1904. Décès de Louis-Joseph Gay-Lussac. Il est décédé le 9 mai 1850, chimiste, physicien français. Il est notamment connu pour ses études sur les propriétés des gaz. Gay-Lussac, oui, ça nous dit quelque chose. Bah oui, fatalement, parce qu'il y a une avenue ou un boulevard Gay-Lussac, je crois, à Paris. Donc c'est un nom qui nous dit peut-être parfois quelque chose, Gay-Lussac. Ses travaux méticuleux en physique et en chimie pneumatique, dans la continuité de Lavoisier et dans le respect de l'école newtonienne d'Arcueil, eh bien, ses travaux ont ouvert une voie paradoxale mais assurée aux notions fondamentales de la chimie atomique, à commencer par le nombre d'Avogadro et la molarité. Alors ça, on est sur des notions chimiques assez spécifique, assez particulière, qu'on ne va pas évoquer ici. Mais en tout cas, pour tous les chimistes, tous ceux qui ont fait des études scientifiques, le nombre d'Avogadro leur dit quelque chose. La notion de molarité aussi, une mole de molécules, enfin, d'atomes, ce sont des notions de quantité qui sont assez spécifiques. Et c'est grâce aux travaux de Gay-Lussac que l'on a pu justement arriver à avoir ces paramètres. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails, mais Gay-Lussac est quand même un grand chimiste et un grand physicien français, décédé le 9 mai 1850. Voilà pour cet éphéméride. C'est toujours intéressant d'avoir aussi des repères un petit peu historiques, des repères de date pour certaines découvertes scientifiques. Allez, on va partir, parce qu'on ne va pas rester sur Terre. On va aller voir ailleurs si on est quelque part, et notamment on va aller sur Mars. Parce que 5 ans après son arrivée sur Mars, Persévérance n'en a pas fini de nous surprendre. Le rover de la NASA, il est depuis 2021, il arpente un cratère qui s'appelle le cratère J0. Et puis il va le prélever quelques endroits, des échantillons de roches susceptibles de nous renseigner sur l'histoire géologique et climatique de Mars, mais aussi dans l'espoir d'y trouver peut-être des traces de vie ancienne. Dans une étude parue dans la revue Nature Communications, une équipe de scientifiques s'intéresse tout particulièrement à une roche qui a été découverte en 2024. Plus précisément, il s'agit de ce qui semble être un ancien lit de rivière, là où de l'eau liquide devait circuler il y a quelques milliards d'années, lorsque Mars était plus tempéré, avec une atmosphère et un climat peut-être comparable à celui de la Terre. Et donc dans ce lit de rivière, les scientifiques n'ont pas trouvé d'anciens microbes ou des fossiles, mais ils ont trouvé du nickel. Et à première vue, il n'y a aucun lien avec une trace de vie, puisque le nickel est connu sur Terre comme étant un métal. On le trouve rarement à l'état naturel dans des minéraux issus des milieux miniers. En revanche, il peut jouer un rôle important dans certains mécanismes propres aux microbes, ce qui le rend donc intéressant ici avec cette découverte. Par exemple, il y a certaines bactéries qui se servent du nickel comme mode de fixation du carbone à travers un mécanisme qui est assez connu. Et les micro-organismes utilisent alors le nickel comme catalyseur pour créer du carbone à partir de l'hydrogène. Et pour ces bactéries, le nickel est vital. Et donc, les chercheurs expliquent dans une interview accordée au site Phases, ils expliquent que l'élément chimique nickel est tellement important pour le métabolisme de ces organismes que sa diminution dans les océans terrestres durant la période qu'on appelle l'Archéen, et environ 4 milliards d'années, serait pu causer un effondrement du méthane atmosphérique juste avant la grande oxydation. Le nickel est donc essentiel à la vie de certains micro-organismes. Mais qu'est-ce qui prouve que celui qui a été retrouvé par Persévérance est bien issu d'un processus qui implique des bactéries semblables à celles que l'on trouve sur Terre ? On n'en sait pas trop, d'après les auteurs. Il est très étonnant de trouver de telles quantités de cet élément chimique à la surface, alors qu'il s'agit plutôt d'une substance qui est propre au sous-sol. Là, on le retrouve en surface et ça pose question. Ce qui voudrait dire qu'il aurait pu être déposé là par justement ces organismes à l'époque. Ainsi, les études, les analyses faites par Persévérance ont permis d'identifier du nickel sur plusieurs roches aux alentours, parfois avec des concentrations records sur Mars. Mais pour savoir s'il s'agit bien de l'œuvre de microbes qui sont disparus, il faudrait éliminer encore quelques possibilités. Ce nickel a très bien pu être déposé ici par des météorites souvent riches en minéraux et en métaux de différentes sortes. Il pourrait aussi s'agir de traces laissées par une ancienne activité volcanique qui aurait conduit un petit peu les produits que l'on trouve dans le sous-sol jusqu'à la surface. Alors, les chercheurs espèrent ainsi que des analyses plus précises pourront être menées afin de lever le voile sur ces interrogations, en gardant à l'esprit que cela aurait sans doute été possible si la mission Mars Sample Return, qui prévoit de ramener des échantillons martiens sur Terre, n'avait pas été annulée. Je vous rappelle, on en avait parlé il y a un mois, je crois, à peu près. Il y avait dans l'idée que ces échantillons martiens récupérés par Persévérance, on les ramène sur Terre pour pouvoir faire des analyses un petit peu plus complètes. Cette mission a été annulée. Alors, peut-être qu'elle reprendra, on n'en sait rien. En tout cas, pour l'instant, elle est annulée. Donc, on ne peut pas faire ces analyses d'éléments de Mars sur Terre, donc on fait des analyses à distance, avec les moyens que l'on a à distance. C'est bien sûr moins performant. Donc on a moins de réponses, donc on a encore plus d'interrogations et de questions. En tout cas, cette découverte de nickel dans le lit d'une ancienne rivelle, d'une ancienne rivière, ça relance un petit peu cette question assez folle qui est, est-ce qu'il y a eu par le passé de la vie sur Mars. On a encore une hypothèse, une supposition, pour l'instant aucune preuve, mais on a quand même de plus en plus d'indices, mais qui pour l'instant, d'un point de vue scientifique, ne donnent pas des preuves. Donc on reste au niveau des indices et on reste donc aussi au niveau des interrogations. Mais c'est totalement passionnant ce qui se passe sur Mars, parce que on sait très bien que c'est l'objectif. Alors pour l'instant, on n'a pas encore nécessairement des précisions sur les calendriers qui sont prévus, mais on ira sur Mars. Enfin, quand on ira, l'être humain ira sur Mars à un moment ou à un autre. Donc on aura peut-être à ce moment-là des informations un petit peu plus précises. En tout cas, Persévérance continue de fonctionner. Persévérance nous donne des informations et ça, c'est presque régulièrement dans cette émission. On parle de cette mission de Persévérance et c'est vrai que c'est assez troublant, mais aussi assez fascinant, bien sûr. Donc on suivra ça, l'actualité de Persévérance, dans les prochaines émissions. Vous avez la possibilité de pouvoir feuilleter le Science et Avenir du mois de mai. Il y a quelques brèves qui apparaissent que je peux vous lire ici, parce que dans Science et Avenir, vous avez bien sûr des articles, des dossiers qui évoquent en profondeur certains sujets scientifiques totalement intéressants. Et puis vous avez des petites pages de brèves qui sont bien écrites, qui sont illustrées, qui sont aussi intéressantes parce que voilà, ça donne des petites informations qui montrent que notre Terre est quand même assez fascinante. Par exemple, il y a des chercheurs qui ont mené des expériences pour comprendre comment les rennes bourdons en hibernation survivaient dans des cavités parfois longtemps inondées en hiver. Eh bien, ces chercheurs montrent que plus de 80% d'entre elles résistent à 7 jours au moins d'immersion. C'est quand même assez fascinant. Ces reines bourdons, elles arrivent à rester en immersion. C'est une capacité qui repose sur une respiration passive à travers le corps et un métabolisme fortement ralenti qui limite les besoins en oxygène. C'est l'Université d'Ottawa au Canada qui a pu nous expliquer justement que ces reines bourdons arrivent quelque part à respirer sous l'eau. Alors, c'est une respiration très lente, une respiration assez spécifique, mais voilà, elles arrivent à rester très longtemps sous l'eau. Toujours au niveau du monde animal, sur les castors, en construisant des barrages, les castors transforment les rivières en zones humides et par là même en puits de carbone. C'est une étude menée dans un corridor fluvial suisse qui montre qu'en 13 ans, la zone humide a accumulé environ 1200 tonnes de carbone, jusqu'à 10 fois plus que des zones sans castors. Grâce à la sédimentation et au développement de la végétation, c'est donc l'université de Birmingham au Royaume-Uni qui a travaillé donc en Suisse et qui montre justement que ces castors permettent quelque part, avec leurs travaux, leurs activités, de stocker du CO2. C'est quand même aussi quelque chose d'assez fascinant. Toujours et encore au niveau des animaux. Ce fait assez rarissime, une naissance de cachalot sauvage a été filmée dans les Antilles par des chercheurs. Sur la vidéo captée au sein d'un groupe de femelles, il y a plusieurs individus qui entourent la mère et qui aident le nouveau-né à remonter à la surface pour respirer. Une séquence inédite qui est à découvrir, hein, vous pourrez voir des vidéos, et qui éclaire un petit peu l'organisation sociale de ces cachalots, c'est-à-dire que quelque part on aurait un petit peu comme des sages-femmes chez les cachalots. C'est l'université de Haïfa en Israël qui a mené ses travaux de recherche. Toujours et encore au niveau des animaux, cette fois au niveau des ours, malgré l'apparent succès démographique, eh bien la population d'ours des Pyrénées court un grave risque d'infécondité à cause de sa faible diversité génétique. C'est la conclusion de l'expertise menée par un cabinet spécialisé pour l'association Pays de l'Ours AD. En 30 ans, en fait, le nombre d'ours est passé de 5 au moment du plan de restauration de l'espèce à environ une centaine aujourd'hui. Donc, en termes quantitatifs, c'est quand même plutôt pas mal. Mais ces animaux proviennent en majorité d'un seul mâle et de deux femelles. Et donc, les simulations montrent que l'espèce devrait parvenir à la capacité maximale d'accueil du milieu pyrénéen, c'est-à-dire jusqu'à à peu près 500 individus, entre 2035 et 2040. Et cet accroissement naturel pourrait toutefois ne pas être atteint à cause d'une consanguinité qui a triplé en 30 ans et devrait doubler dans les 20 prochaines années. Or, avec un taux de consanguinité de 15%, une femelle peut espérer avoir un peu plus de 2 oursons par portée. Et à 30% de consanguinité, ce taux de reproduction n'est plus que de 1 ourson et demi, soit au-dessous du seuil de renouvellement des générations. C'est-à-dire que la consanguinité, elle pèse sur les ours et le taux de reproduction des ours pyrénéens va chuter du fait de leur faible diversité génétique. Il va falloir peut-être quelque part agir. Enfin, toujours dans Science et Avenir, il y a cette petite brève qui concerne des arbres qui brillent au moment des orages. C'est un phénomène qui était soupçonné depuis près d'un siècle et qui a été observé pour la première fois grâce à des caméras ultraviolets. Et donc, ces caméras révèlent de faibles décharges électriques qu'on appelle des couronnes à l'extrémité des feuilles. C'est invisible à l'œil nu, mais ces micro-étincelles se forment lorsque le champ électrique d'un orage s'intensifie autour des cimes. Et donc, ce scintillement électrique des arbres durant les orages, vous pouvez voir quelques vidéos également, ça nous vient de l'université de Pennsylvanie aux États-Unis. Donc voilà, plein de petites brèves vraiment intéressantes que l'on trouve dans Science et Avenir du mois de mai. Et c'est ce que je vous conseille, voilà, de pouvoir feuilleter. On écoute un peu de musique et on continue à feuilleter ensemble la revue de presse de l'actualité scientifique.
Je suis une flamme, une bougie, un feu, je suis une étoile. Je suis bancal, fragile, timide, peureux et friable. Je suis l'enfant qu'on moque, le canque, le petit gros, le pas joli. Je suis marginal parce qu'ils en ont décidé ainsi. Je suis le vent, la pluie, l'orage, l'éclaircie. J'suis le fantasme, le désir, le rêve, j'suis l'utopie. J'suis premier pas à la course, la chute, la rechute, l'obstination. J'suis silencieux mais j'en pense pas moins, indignation. J'suis un sourire, une main tendue, une caresse, le pardon. J'suis pour voir un animal, un monstre, un fou, une abomination. J'suis un ver de terre, un rat, un fauve, ouais, un lion. J'suis une idée, un courant, une pensée, une révolution. J'suis une rage, une colère, un charivari, un cri. Une rature, un tag, un graffiti, un cri. Un fracas, une explosion, un big bang, un cri. Un silence assourdissant qui fait du bruit, un cri. Un accident, un court-circuit, un cri. Une note, un espoir, juste une mélodie, un cri. Je suis la voix des incompris, le chant des insoumis. Je suis un cri. Je suis un sourire, un regard, une main tendue, le pardon. Je pouvais un animal, un monstre, un fou, une abomination. J'ai un ver de terre, un rat, un fauve, ouais, un lion. J'ai une idée, un courant, une pensée, une révolution. J'ai une crampe, une gêne, un mal-être, une démangeaison. Un abri, un refuge, un jardin secret, un feu en hiver. L'ivresse d'un baiser, d'une caresse. Je suis ton frère. Je suis une rage, une colère, un charivari, un cri. Une rature, un tag, un graffiti, un cri. Un fracas, une explosion, un big bang, un cri. Un silence assourdissant qui fait du bruit, un cri. Un accident, un court-circuit, un cri. Une note, un espoir, juste une mélodie, un cri. J'ai la voix des incompris, le chant des insoumis. Je suis un cri. Je suis une étoile, je suis bancal, fragile, timide, peureux et friable. Je suis l'enfant qu'on moque, le canque, le petit gros, le pas joli. Je suis marginal, parce qu'ils ont décidé ainsi. Je suis un cri. Je suis une rage, une colère, un charivari, un cri. Une rature, un tag, un graffiti, un cri. Un fracas, une explosion, un big bang, un cri. Un silence assourdissant qui fait du bruit, un cri. Un accident, un court-circuit, un cri. Une note, un espoir, juste une mélodie, un cri. J'suis la voix des incompris, le chant des insoumis. Je suis un cri. Je suis un cri. Je suis un cri. Je suis un cri. Je suis un cri.
Un cri, c'était Coffees and Cigarettes sur l'antenne de Graphite.
Jean-Noël Moreau, Guillotine, sur Graphite.
Coffees and Cigarettes. Beau programme, hein, c'était donc un cri. Pas mal cette programmation aussi musicale que nous offre Graphite. Alors, je n'ai aucune gloire, je pioche au hasard dans une playlist qui nous est proposée. On découvre assez régulièrement dans cette émission pas mal de petits trésors aussi dans cette programmation musicale. C'est ça qui est intéressant avec Graphite. Et notamment avec cette émission Biotine, on s'intéresse un petit peu, on s'informe, on apprend des choses et puis on a aussi des pauses musicales qui sont assez intéressantes. On écoutera un autre titre dans quelques instants. Mais là, pour l'instant, on continue à feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique sur l'antenne de Graphite. Hein. Je rappelle que vous nous écoutez sur la bande FM 94.9, mais également sur graphite.net avec la rediffusion le mardi matin à 10h. Il y avait un article que je voulais évoquer il y a déjà quelques semaines, parce que ça date du mois d'avril et j'ai pas eu le temps de... J'ai retrouvé là tout à l'heure, je me suis dit, mais c'est vrai, je n'ai pas parlé de ce qui s'était passé au niveau de cette campagne de piratage de bases de données sensibles qui sont maintenant de plus en plus fréquentes. Alors, l'une des dernières affaires en date, ça concernait Basic Fit. Vous savez, cette chaîne de salles de fitness néerlandaise qui compte autour de 1650 salles de sport en France et qui a donc annoncé avoir été victime d'une vaste fuite de données concernant plusieurs pays, dont la France. Alors pour les hackers, la chasse a été bonne puisque ils ont pu amasser les données personnelles les plus sensibles des clients, nom, adresse postale, email, téléphone, date de naissance. et malheureusement aussi les coordonnées bancaires. Tout ça fait partie de la récolte. Et comme Basic Fit a pu rapidement identifier et bloquer l'intrusion, les dégâts semblent limités. Selon l'entreprise, les mots de passe des comptes n'ont pas fait partie de la fuite, mais étant donné la nature, les données récupérées, cela n'a pas vraiment d'importance à ce niveau. En tout, les données volées concerneraient autour d'un million d'abonnés, c'est quand même assez conséquent. Ils auraient tous été prévenus par email par la société. Alors si Basic Fit n'a pas encore indiqué l'ampleur des dégâts en France, ils doivent être significatifs car c'est le pays où il y a plus de salles, ce qui présente autour de 2 millions de membres en France. Donc effectivement, c'est quand même assez conséquent. Pour accéder à la base de données, les pirates sont parvenus à s'introduire dans le système qui gère les entrées et les sorties des abonnés dans les clubs. Et c'est à partir de cette brèche qu'ils ont pu exfiltrer un maximum de données personnelles. Alors reste à savoir ce que les pirates vont faire des éléments récupérés. Ceci pourrait bien enrichir les marchés de profils d'utilisateurs les plus complets du Darknet pour les louer, les vendre dans le cadre d'autres campagnes de piratage qui seront bien plus redoutables, bien sûr. Les véritables dégâts ne seront connus que d'ici plusieurs mois. Alors d'ici là, pas évident que les abonnés à Basic Fit puissent faire le lien entre d'éventuelles usurpations d'identité et d'autres manœuvres frauduleuses avec ce vol de données. En tout cas, c'est vrai que ces vols de données, ces piratages de bases de données, ça devient de plus en plus fréquent. Il y a aussi, je crois de mémoire, la NTS qui est le site administratif, un site de l'administration française qui a été piraté également, et avec des données aussi précieuses, enfin, ça devient inquiétant tout ça, et on ne voit pas nécessairement encore quelles sont les parades qu'il va falloir mettre en place, mais c'est assez particulier, bien évidemment. En tout cas, voilà, ça datait du mois d'avril pour Basic Fit. Depuis, il y a d'autres choses qui se sont passées, mais je voulais rapidement évoquer cela. On va partir. Alors, j'ai trouvé deux articles de Futura Science en lien avec l'Égypte. Alors, on va commencer par la première. On va commencer par celle-ci. Vous écoutez mes feuilles, comme ça, vous voyez que je suis vraiment à l'ancienne avec des feuilles pour pouvoir lire les articles. Notamment, cet article concerne le secret de construction de la pyramide de Khéops. Elle est haute de plus de 146 mètres, elle est large d'environ 230 mètres à la base. La pyramide de Khéops, qui est aussi appelée la Grande Pyramide de Gizeh, eh bien, elle a nécessité la taille, le transport et la pose d'environ 2 300 000 blocs de calcaire et de granit. Et pour qu'un tel chantier soit achevé dans le temps généralement admis, on considère entre 20, 25, 27 ans à peu près de construction pour une telle pyramide. Correspond à peu près à la durée de règne d'un pharaon. Eh bien, il aurait fallu maintenir une cadence moyenne vertigineuse en posant un bloc toutes les 3 minutes, ce qui est a priori impossible. Dès lors, comment les bâtisseurs ont-ils pu faire? Ça, c'est vraiment toute la question. Et une question que l'étude qui a été publiée récemment dans la revue Nature, qui a été rédigée par l'ingénieur en informatique Vincente Luis Rosel Roig, eh bien, cette étude apporte une explication plutôt cohérente. Le cœur de l'hypothèse repose sur un modèle dit de construction multi-rampe intégrée au bord. Plutôt de construire une immense rampe extérieure coûteuse en matériaux et particulièrement encombrante, les auteurs imaginent un couloir temporaire aménagé directement dans les couches périphériques de la pyramide. Ce chemin en forme d'hélice longe les bords du monument au fur et à mesure de son élévation. Concrètement, certains blocs du pourtour auraient été laissés provisoirement de côté pour créer un passage ouvert environ 3-4 mètres de large avec une pente douce de 7 degrés. Et une fois la partie haute construite, eh bien ce couloir aurait été rebouché progressivement de haut en bas jusqu'à faire disparaître presque toute trace visible du dispositif. L'intérêt de ce système, il est double. Non seulement il va limiter l'emprise au sol autour du chantier, mais il permet également de conserver un contrôle visuel sur les arêtes et l'alignement de la pyramide, ce qui est essentiel, bien sûr, pour garantir la précision géométrique du monument. L'étude montre qu'une seule rampe n'aurait pas suffi pour soutenir le rythme exigé, et donc Vincente Luis Rosel Roig propose donc une organisation adaptative et parallèle, c'est-à-dire qu'au niveau des plus bas, où l'espace est large, il y a plusieurs rampes qui fonctionnent en même temps, puis à mesure que la pyramide rétrécit, eh bien leur nombre diminue progressivement. De 16 rampes au début, on passe à 8, puis à 4, puis à 2 et enfin une seule près du sommet. Ce système permettrait des départs de blocs toutes les 4 à 6 minutes par rampe active. Et avec ce rythme, le chantier principal sur site aurait pu durer environ une vingtaine d'années. Et en ajoutant l'extraction des pierres, leur transport sur le Nil, les pauses saisonnières, et bien la durée totale de construction coïncide avec cette fourchette qu'on avait entre 20 et 27 ans, une fourchette qui est admise par la plupart des historiens. Et donc, cet ingénieur en informatique ne s'arrête pas à la circulation des blocs. Il teste aussi la solidité de son modèle grâce à l'analyse par éléments finis. En fait, c'est un outil d'ingénierie utilisé pour mesurer les contraintes et les tassements dans une structure. Selon lui, les vides temporaires créés par ces couloirs resteraient compatibles avec la résistance du calcaire sous son propre poids. Le modèle, en fait, il intègre également des détails très concrets comme les parapets de sécurité, les plateformes élargies dans les angles pour pouvoir manœuvrer, les files d'attente des ouvriers sur le chantier, les délais dans les virages et même un système spécifique pour les énormes blocs de granit de la chambre du roi qui sont trop massifs pour suivre le même trajet que les blocs ordinaires. On aura un petit peu comme des chemins de convoi exceptionnels quelque part. Et ceci aurait été levé par étapes courtes sur de faibles pentes, à l'aide de leviers, des cordes, des points d'ancrage en bois. Et en articulant la géométrie du monument, les contraintes physiques du chantier et l'organisation du travail au quotidien dans un même modèle, son approche propose une explication plutôt cohérente et plutôt solide. Donc l'un des apports majeurs de cette étude, c'est de ne pas présenter cette hypothèse comme une vérité définitive, mais comme un scénario testable. Et ce modèle de construction avec des multi-rampes, ça a laissé des indices précis, notamment des signatures de remplissage le long des bords, des marques d'usure particulières aux angles ou encore des anomalies localisées détectables par radar là où elles auraient été installées, là où on aurait pu installer certains ancrages temporaires. On arrive à distinguer cela. Il souligne aussi que la géométrie de ce système serait compatible avec certains vides internes repérés notamment par imagerie, sans pour autant prétendre que ces cavités prouvent le modèle. Donc voilà, on aurait percé le secret de la construction de la pyramide de Khéops, qui tiendrait donc dans ce dispositif qui serait invisible depuis 4500 ans. Effectivement, c'est assez intéressant d'avoir cet aspect-là. C'est une hypothèse qui peut être assez sérieuse et qui, de toute façon, va être analysée un peu plus en profondeur. Comme on est en Égypte, on va parler de momies, notamment des restes de momies égyptiennes issus du musée d'histoire de la médecine et du musée national hongrois. Tout ça a été analysé au centre d'imagerie médicale de l'université de Budapest. Les analyses ont été réalisées de nuit, en dehors des horaires de consultation, nous dit-on, avec un scanner spécifique, qui est le scanner le plus récent de l'établissement, qui est doté d'un détecteur à comptage de photons. C'est une technologie qui permet d'obtenir des images bien plus détaillées que ce que l'on fait normalement sur les momies. Et c'est plus détaillé, mais ça n'endommage pas les vestiges. C'est ça qui est intéressant. Selon les chercheurs, cette technologie particulièrement adaptée aux matériaux complexes et multicouches, comme bien sûr les restes humains momifiés et leurs bandages. L'objectif, c'est d'identifier la structure interne des spécimens, d'éventuelles anomalies osseuses et les techniques de conservation qui sont employées. Alors, il y a 6 spécimens de momies qui avaient déjà été datés au carbone 14, mais seuls 3 résultats étaient exploitables. Les plus anciens restes remonteraient à une période comprise environ entre 400 et 250 ans avant notre ère. Donc c'est vieux, ça date de 2300 ans quand même. Les nouveaux examens offrent déjà plusieurs pistes inédites. 2 têtes momifiées peuvent désormais être étudiées avec davantage de précision grâce à l'analyse des dents et des sutures au niveau du crâne. Ces données pourraient affiner leur datation et permettre à terme de pouvoir faire des espèces de reconstitutions, des reconstructions en 3 dimensions qui seraient quand même assez intéressantes. L'étude d'un membre inférieur gauche, jusque-là difficile à interpréter, suggère une possible ostéoporose, même si son origine reste encore inconfirmée. Et un second membre inférieur appartiendrait quant à lui à un jeune individu dont l'âge exact reste à déterminer. Autre surprise, un ensemble qui était longtemps pris pour une tête humaine, puis pour une momie d'oiseau, eh bien, final, ça s'est révélé être un pied d'adulte. Vous avez qu'à voir que, effectivement, c'était assez difficile de savoir ce qu'il y avait derrière les bandages. Les chercheurs analysent désormais les couches de textile qui l'entourent afin d'en apprendre plus sur la momification et l'identité du défunt. Enfin, il y a une main momifiée qui pourrait aider à estimer l'âge, le sexe et le développement osseux de l'individu. Les chercheurs espèrent désormais mieux comprendre la santé, la vie quotidienne et les pratiques funéraires de ces anciens Égyptiens. Donc voilà, une nouvelle technologie qui est mise en place et qui révèle des secrets enfouis dans des momies égyptiennes de plus de 2300 ans. Et c'est en Hongrie que ça se fait. On ne parle pas souvent de la Hongrie dans cette émission. Mais voilà, il y a aussi des choses qui se passent en Hongrie grâce à ce scanner médical de dernière génération. Une technologie ultra précise qui permet d'avoir des détails invisibles jusqu'à maintenant. Et ces détails émergent de plus en plus. Donc effectivement, au départ, on pensait que c'était une tête. Après, on pensait que c'était un oiseau. Et puis finalement, ça se révèle être un pied. C'est bien qu'on ait maintenant des technologies d'imagerie un petit peu plus performantes pour en savoir un peu plus, bien évidemment. Allez, on écoute un peu de musique et puis on va continuer ensemble à feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique. Qu'est-ce que vous êtes bien sur Graphite ? For real, c'était The Shacks sur l'antenne de Graphite.
Biotine, Jean-Noël Moreau.
Et puis une petite brève encore de Science et Avenir, parce que je trouve que c'est assez intéressant. Cette intelligence artificielle qui invente des génomes inédits. Quand même le faire, ça. Créer des génomes qui n'existent pas dans la nature, c'est désormais à portée d'algorithme. Des chercheurs de l'université Stanford aux États-Unis présentent dans la revue Nature une intelligence artificielle générative qui s'appelle Evo 2, capable non seulement de lire l'ADN, mais aussi de produire des brins inédits. Elle a été entraînée sur un volume colossal de données, presque près de 9000 milliards d'informations, notamment de nucléotides, donc c'est les éléments de l'ADN issus d'organismes allant des bactéries aux cellules humaines, pour un total correspondant à environ 3000 fois la taille du génome humain. Donc en termes de volumétrie des données, on est sur quelque chose d'immense. Et l'intelligence artificielle a ainsi acquis une sorte de grammaire du langage génétique, de quoi identifier les motifs conservés par l'évolution et en déduire la fonction des différentes régions du génome. L'outil peut ainsi prédire les effets de mutations, y compris des mutations humaines. Il retrouve notamment l'impact de variation d'un gène qui est impliqué dans le cancer du sein. Mais au-delà de l'analyse, le plus surprenant reste sa capacité à inventer des séquences génétiques. Il invente des séquences génétiques comme ChatGPT invente du texte, en fait. C'est un petit peu le même principe. Ça a été testé sur différents types de génomes, d'abord de petite taille, puis plus complexes. Et donc, cette intelligence artificielle générative, Evo 2, a donc produit des séquences inédites qui respectaient l'organisation de génomes naturels. Les protéines qu'elle pourrait produire présentent ainsi des structures très proches de celles observées dans la nature. Les chercheurs ont même poussé l'expérience plus loin. En imposant des règles précises, ils ont demandé à l'intelligence artificielle de générer des séquences d'ADN intégrant un message codé en morse. Une fois celle-ci insérée dans des cellules souches de souris, ce message était bien lisible. C'est quand même fascinant. Ces capacités ouvrent donc des perspectives majeures. En comprenant finement les mécanismes génétiques, l'intelligence artificielle pourrait accélérer l'identification de mutations pathogènes, améliorer la conception de thérapies ciblées ou permettre à terme la création de génomes synthétiques aux fonctions précises, par exemple pour mieux cibler certaines mutations ou pour produire des molécules d'intérêt médical. C'est une annonce quand même assez fascinante qu'on n'a pas nécessairement entendue ou lue. Et c'est cette brève de Science et Avenir qui en parle. C'était donc au départ dans la revue Nature qui évoque donc cette intelligence artificielle qui invente des génomes inédits. Totalement fascinant, totalement bluffant bien sûr. Deux informations au niveau médical qui ne sont pas nécessairement réjouissantes mais qui est intéressant quand même d'évoquer. On va parler de la cigarette électronique. Plus de 100 millions de personnes dans le monde utilisent aujourd'hui la cigarette électronique, dont au moins 15 millions d'adolescents. C'est énorme selon les données de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. En fait, c'était d'abord présentée comme une alternative moins dangereuse que le tabac, la cigarette électronique s'est rapidement imposée comme un produit très utilisé, notamment donc chez les jeunes. Pour beaucoup d'utilisateurs, vapoter reste perçu comme un geste sans réel danger, voire comme un moyen de protéger sa santé. Mais avec cette popularité croissante, les questions sur ses effets réels sur la santé se multiplient. Et une nouvelle étude internationale publiée dans la revue Carcinogenesis qui apporte justement de nouveaux éléments d'inquiétude en suggérant que la cigarette électronique contenant de la nicotine pourrait augmenter le risque de certains cancers. L'objectif du professeur Bernard Stewart, qui est chercheur en cancérologie, et son objectif était de déterminer si le vapotage pouvait être cancérogène en lui-même, indépendamment du tabagisme classique, une question qui est encore relativement peu étudiée jusqu'à présent, une question importante alors que de nombreux vapoteurs pensent limiter les risques en abandonnant la cigarette classique. Alors, l'auteur principal de l'étude explique, à notre connaissance, cette étude constitue la conclusion la plus définitive selon laquelle les personnes qui vapotent présentent un risque accru de cancer par rapport à celles qui ne vapotent pas. pas. Les chercheurs ont notamment identifié dans les aérosols des cigarettes électroniques plusieurs substances potentiellement cancérogènes, dont des composés spécifiques, des métaux également issus des résistantes chauffantes. Des biomarqueurs retrouvés chez certains utilisateurs suggèrent également des dommages au niveau de l'ADN, des phénomènes inflammatoires, du stress oxydatif. En fait, c'est des mécanismes qui sont connus pour favoriser le développement de cancers, notamment le cancer du poumon. Les auteurs insistent toutefois sur un point important. Notre évaluation ne comporte pas d'estimation numérique du risque. Nous ne pourrons déterminer ce risque précis que lorsque des études de suivi à long terme seront disponibles. Et ce manque de recul s'explique en fait par la nouveauté de ces produits. Elles ont été introduites au début des années 2000. Les cigarettes électroniques, elles n'ont pas encore fait l'objet d'études épidémiologiques sur plusieurs décennies. Contrairement au tabac, on n'a pas le recul nécessaire encore. Il y a certains chercheurs qui appellent néanmoins à ne pas répéter les erreurs du passé. Les cigarettes électroniques existent depuis environ 20 ans. Nous ne devrions pas attendre encore plusieurs décennies avant d'agir. C'est ce qu'estime un autre chercheur de cette étude, Freddy Sitas. En fait, cette étude s'inscrit dans un ensemble croissant de travaux scientifiques allant dans le même sens. Une revue systématique publié l'année dernière dans la revue Tobacco Induced Disease, souligne cette étude, par exemple, que l'exposition aux cigarettes électroniques est associée à plusieurs biomarqueurs liés au risque de cancer. D'autres études suggèrent également que l'usage combiné de cigarettes classiques et de cigarettes électroniques pourrait accroître davantage le risque de cancer pulmonaire que le tabagisme seul. Une revue publiée l'année dernière également dans Hemsopen évoque notamment une association possible entre vapotage et risque de cancer du poumon, particulièrement chez les utilisateurs qui cumulent les deux pratiques. Alors pour les auteurs, ces résultats plaident pour une approche de santé publique prudente, notamment chez les jeunes non-fumeurs. Car si le lien définitif avec le cancer nécessitera encore des années de recherche, les mécanismes biologiques observés constituent déjà, selon eux, des signaux d'alerte sérieux. Alors pour les utilisateurs, ces travaux rappellent surtout une chose, vapoter n'est probablement pas un geste anodin. Côté chercheur, un consensus semble progressivement émerger. L'image d'un vapotage sans risque appartient sans doute déjà au passé. Donc voilà, on a. Alors, c'est pas la première fois qu'on parle du vapotage et des risques du vapotage dans cette émission. Il y a eu plusieurs articles, comme on vous le dit, essentiellement l'année dernière. Il y a pas mal de choses qui ont été publiées et qui montrent que voilà, ça reste encore assez à risque. On n'a pas de retour, en fait. On n'a pas le recul nécessaire. On commence à avoir des premiers indices. C'est peut-être catastrophique ce qui nous attend au niveau des cigarettes électroniques. En tout cas, les chercheurs alertent sur un danger réel au niveau du vapotage. Donc c'est encore assez régulièrement un article qui parle de ce sujet et on n'a pas nécessairement le recul. Et c'est bien dommage.
Biotine, Jean-Noël Moreau.
Vous nous écoutez sur Graphite, bien sûr, le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM et Graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet. Il y a la rediffusion aussi le mardi matin à 10h. N'oubliez pas, parce que je me focalise sur le samedi, mais le mardi matin également à 10h, vous nous écoutez et je vous salue bien évidemment. Le deuxième article que je voulais évoquer au niveau médical, c'était les objets en plastique qui nous entourent au quotidien, représentent-ils un danger quand une femme est enceinte ? Question, la réponse est clairement oui, et dans certains pays, le fardeau serait énorme. C'est en tout cas ce que suggère une étude inédite qui a été publiée il y a quelques jours dans la revue Clinical Medicine. Contrairement à ce que l'on pense souvent, les matériaux plastiques ne sont pas inertes. C'est le cas notamment du PVC souple, une des matières plastiques les plus répandues dans le monde. Utilisé pour fabriquer une multitude d'objets du quotidien, eh bien sa fabrication implique l'ajout de phtalates, des additifs qui vont améliorer la flexibilité des matériaux. Le problème, c'est que le PVC est susceptible de se décomposer en microplastiques capables de pénétrer dans l'organisme par l'alimentation, par l'air, par la poussière et donc de relarguer ces fameux phtalates. C'est ça le risque. Le phtalate fait partie des additifs fréquemment utilisés pour concevoir du PVC. utilisé notamment pour fabriquer des revêtements de sol, des rideaux de douche, des tuyaux d'arrosage, des couches culottes, des films, des récipients plastiques pour conserver les aliments. Enfin bref, on en trouve partout. Il est également présent dans les parfums, les cosmétiques, les détergents, les répulsifs anti-insectes et bien d'autres produits ménagers. Ce phtalate, c'est donc très dangereux, cette substance étant considérée comme cancérigène, toxique pour la reproduction, elle est désormais interdite dans tous les jouets et les articles de puériculture que les enfants peuvent mettre en bouche, ainsi que dans les produits cosmétiques. Mais de nombreuses recherches ont également établi un lien entre l'exposition à ce phtalate et la prématurité. Alors malheureusement, jusqu'à présent, son impact sur les naissances avant terme n'avait jamais été chiffré au niveau mondial. Eh bien, il y a trois chercheurs de l'université de New York qui ont décidé de creuser le sujet et sur la base de données issues de vastes enquêtes nationales menées aux États-Unis, en Europe et au Canada, ils ont commencé par estimer l'exposition au phtalate en 2018 dans 200 pays et territoires. L'équipe s'est ensuite appuyée sur des recherches antérieures évaluant l'impact de l'exposition au phtalate sur les naissances prématurées. Et donc, ils ont combiné ces résultats avec ces estimations mondiales d'exposition. Et puis enfin, ils ont combiné ces informations avec les chiffres mondiaux sur les naissances prématurées et les décès afin d'évaluer quelle part de la prématurité pouvait être liée à ces phtalates. Alors que montrent les calculs? Eh bien, selon les chercheurs, l'exposition au phtalate aurait contribué à environ 2 millions de naissances prématurées dans le monde, soit plus de 8% au total mondial, ce qui est quand même un chiffre faramineux. Quelques 74 000 nouveau-nés seraient morts en raison de la présence de ce plastifiant dans l'environnement. Cette exposition pourrait avoir contribué à plus d'un million d'années vécues avec un handicap, si on cumule bien sûr toutes les années de toutes les personnes concernées. Et selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, la prématurité est en effet un facteur de risque majeur de troubles durables de l'apprentissage et du développement et l'une des principales causes de mortalité infantile. En raison d'une croissance rapide de leur industrie du plastique et de la production de volumes élevés de déchets plastiques à l'échelle mondiale, certaines régions seraient touchées bien plus durement que d'autres par les effets du phtalate. C'est le cas du Moyen-Orient et de l'Asie du Sud qui représentent plus de la moitié des problèmes de santé liés aux naissances prématurées associées au phtalate. L'Afrique est également concernée, bien sûr. Alors, les chercheurs ont répété leurs calculs pour d'autres substances, notamment un autre composé utilisé comme substitut au phtalate, et on se rend compte que les résultats sont à peu près identiques. En conclusion, expliquent les chercheurs, notre analyse montre clairement que réglementer les phtalates un par un et les remplacer par des substituts mal connus a peu de chances de résoudre le problème dans son ensemble. Nous jouons à un dangereux jeu de tap-taupe. Alors le tap-taupe, c'est le jeu où les taupes sortent aléatoirement et que l'on doit frapper le plus vite possible avec un maillet. On connaît tous ce jeu, donc eux, ils prennent ce jeu un petit peu comme métaphore. Ils disent qu'on joue à un jeu dangereux de tap-taupe avec des produits chimiques dangereux. Et ces résultats soulignent le besoin urgent d'une surveillance plus stricte à l'échelle de toute la classe des additifs plastiques afin d'éviter de répéter les mêmes erreurs. Donc voilà, cet additif qui est donc caché dans les plastiques aurait des impacts dangereux sur la prématurité et sur également les décès des nouveau-nés. C'est pas la première fois qu'on aborde ce sujet, bien évidemment, mais là, c'est quand même une étude sur une grande ampleur. C'est ça qui est toujours intéressant dans ce genre d'études. C'est à partir du moment où on a des données en grande quantité ou sur des temps d'études assez importantes, ça appuie bien sûr les résultats, ça me donne quelque chose d'un petit peu plus fin, d'un peu plus crédible. Et donc là, l'alerte est quand même assez sérieuse, bien évidemment. Allez, on écoute un dernier titre dans cette émission et puis on finira de feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique. À tout de suite.
Such a long way for me, you don't want to go. Taken from the outside, I can be the one.
everlasting, everything is on the other side. So let me find everlasting, everything is on the other side.
VIP Jamboree, c'était Grey Reverence sur l'antenne de Graphite. C'était sympa ça aussi.
Jean-Noël Moreau, Biotine, sur Graphite.
Eh bien, on arrive déjà presque à la fin de cette émission. Ça passe tellement vite. Alors, quelques petites brèves peut-être pour... quelques petites brèves pour nous remonter le moral, parce que je vous ai quand même plombé l'ambiance avec ces informations au niveau médical. Il y a d'autres informations au niveau médical qui sont un petit peu plus heureuses. Par exemple, on va parler d'infarctus, mais en tout cas, après un infarctus, une simple injection pourrait aider le cœur à se réparer, selon des chercheurs de l'Université de Columbia aux États-Unis. En fait, ils ont présenté dans la revue Science une thérapie à base d'ARN messager. Tiens, ARN messager, ça nous dit quelque chose. Et ça pousse les cellules cardiaques à produire davantage d'hormones protectrices naturellement libérées après une crise cardiaque et connue pour ses effets anti-inflammatoires. Ça a été testé chez la souris et cette stimulation prolongée a limité la formation de tissus cicatriciels et ça a donc amélioré nettement la fonction cardiaque. En fait, on l'a injecté directement dans le muscle, cet ARN messager qui livre une espèce de plan de fabrication temporaire de cette hormone aux cellules qui vont donc fabriquer alors l'hormone en plus grande quantité pendant plusieurs semaines. Et à la différence des traitements actuels qui agissent surtout sur les symptômes, eh bien cette approche vise à soutenir les mécanismes naturels de réparation du cœur. L'enjeu est majeur puisque le muscle cardiaque se régénère très mal après un infarctus. Donc l'idée d'injecter de l'ARN pour réparer le cœur est une belle approche. Et donc l'université de Columbia a donné des précisions et c'est vrai que ça peut être quelque chose d'assez intéressant et d'optimisme. Alors ça nous fait du bien, bien évidemment. Toujours dans Science et Avenir, cette autre petite brève concernant la dépression, des chercheurs sont parvenus à traiter de façon efficace une dépression résistante au traitement classique en moins d'une semaine. Alors là, c'est quand même totalement fascinant. Pour cela, ils ont utilisé une technique de stimulation magnétique transcrânienne de façon intensive qui était administrée plusieurs fois par jour. Alors, je ne sais pas du tout si c'était agréable. En tout cas, les résultats sont plutôt bons, notamment des résultats qui étaient obtenus d'habitude en plusieurs semaines. Et là, ça a duré en moins d'une semaine. C'est l'Université de Californie qui a traité ce sujet de recherche. Et donc voilà, une dépression résistante qui est traitée en 5 jours avec cette stimulation magnétique qui va activer les neurones et qui va modifier l'activité cérébrale. Et donc, ça agit sur la dépression en moins de 5 jours. C'est assez fascinant, bien évidemment. Et puis, cette dernière brève, et ça terminera cette émission, on va parler du clonage. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le clonage de mammifères ne peut pas être répété à l'infini. C'est ce que montre le japonais Teruhiko Wakayama de l'université de Yamanashi au Japon. En fait, il a cloné des souris sur plusieurs générations et il a observé que la fertilité diminuait à partir du 25e clone. Il fait 25 clones de souris. Et la fertilité, elle allait jusqu'à devenir nulle à la 57e génération. Il a fait 57 générations de clones de souris. Enfin, c'est quand même assez extraordinaire, je trouve, bizarre. En tout cas, ce résultat est aussi assez intéressant parce que le clonage a donc des limites biologiques. En cause, il y a une accumulation progressive de mutations déjà 3 fois plus nombreuses que lors d'une reproduction sexuée, on va dire normale, ainsi que des anomalies chromosomiques délétères. Et ces travaux prolongent les expériences qui avaient été menées après Dolly en 1997. On se rappelle de cette brebis Dolly, c'était déjà, ça va faire bientôt 30 ans. On va célébrer les 30 ans de la naissance de Dolly, cette brebis clonée. Hein, vous vous en souvenez peut-être, ça avait beaucoup fait parler à l'époque. Donc là, maintenant, on est sur 57 générations de souris clonées. Donc on a vraiment dépassé toutes les limites. En tout cas, les travaux d'aujourd'hui prolongent donc ces expériences qui avaient été menées et qui avaient montré que les cellules adultes conservent l'information génétique nécessaire au développement d'un individu et ils prouvent que ce potentiel est limité. Même si le retour à une reproduction sexuée corrige une partie des erreurs, et bien l'apport d'ADN paternel compensant certaines altérations génétiques, ça permet de le faire. Mais en tout cas, on voit très bien qu'il y a des limites biologiques. C'est-à-dire qu'à la 58e génération, toutes les souris clonées sont mortes peu après leur naissance sans présenter d'anomalie visible. Et c'est donc cette équipe de recherche japonaise qui nous donne des informations sur l'accumulation de mutations qui finirent par rendre des clones stériles. C'est quand même assez troublant. C'est la science, c'est aussi une émission qui nous permet de traiter de l'actualité scientifique et parfois de se poser quelques questions, bien évidemment. Je vous laisse sur ces questions. Je vous retrouve samedi prochain. J'étais très content d'avoir animé l'émission pour vous hein, aujourd'hui sur l'antenne de Graphite. Je rappelle que vous nous écoutez sur la bande FM 94.9 et vous nous écoutez aussi sur internet graphite.net en direct ou en différé. Hein, vous avez tous les podcasts de toutes les émissions de Graphite sur le site internet graphite.net et la rediffusion de cette émission mardi matin à 10h. Je vous souhaite de passer une bonne journée et une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine sur l'antenne de Graphite. À samedi prochain. Bonne journée.